Bonjour à tous nos auditeurs à qui nous présentons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année et bienvenue à Chant contre Chant, émission présentée sur Fréquence Protestante par l'association Profil qui vous repose son regard mensuel sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Jean-Michel Jucquer, bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Et Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, 2019 sera-t-elle une grande année pour le cinéma et en particulier pour le cinéma français? Bon, il est trop tôt pour le dire, nous avons en tout cas donné une place privilégiée aux films français de ce début d'année dans notre première émission 2019. En effet, si nous allons commencer par parler d'un film japonais, Asako 1 et 2, de Ryuhiko Hamaguchi, nous continuons avec Les Invisibles, film de Louis-Julien Petit qui rencontre une terrible réalité sociale, et nous poursuivrons avec Edmond d'Alexis Michalik, film qui raconte les créations tumultueuses du Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand et que le public a largement publicité depuis sa sortie. Quant aux quatre coups de cœur qui suivront, ils seront tous consacrés à des films français. Eh bien, commençons avec Asako. On avait découvert Ryuhiko Hamaguchi l'année dernière avec Senses. Il nous revient cette année avec Asako 1 et 2. Il y avait quatre femmes dans Senses. Cette fois, il n'y en a plus qu'une, Asako, jouée par la ravissante Erika Karata. Elle est toute jeune. Le début du film nous la montre à Osaka, alors qu'elle connaît son premier amour en faisant la rencontre de Baku, un être bohème, difficilement saisissable, qui parfois disparaît sans raison avouée, mais revient un peu plus tard. Sauf qu'un jour, il disparaît pour de bon. Asako quitte Osaka, s'établit à Tokyo où elle travaille comme serveuse dans une cafétéria, et alors qu'elle rencontre Ryohei, joué par Masahiro Higashide comme Baku, celui-ci, qui apparaît à l'écran sous la représentation d'un cadre japonais, tout ce qu'il y a de plus classique, ressemble à, comme deux gouttes d'eau à Baku. Nouveau choc pour Asako. Cette rencontre va peu à peu se muer en une nouvelle histoire d'amour, mais d'un amour plus terrestre qu'avec le vaporeux Baku. Mais voici que celui-ci fait sa réparition, comme il avait annoncé d'ailleurs. Face à ces deux hommes, que va faire Asako? Françoise.
Ah ben elle va le suivre, bien sûr. Elle va suivre les yeux fermés passionnément en laissant Ryohei abasourdi, fou de douleur, fou de colère. Parce que contrairement aux quatre femmes très déterminées à exister que nous avons rencontrées dans Senses, Asako est tout juste sortie de l'enfance, elle est sage, réservée, fragile. Elle est terrassée par ce premier amour qu'elle a à peine eu le temps de goûter d'ailleurs. C'est un authentique coup de foudre. On ne sait rien d'Asako, elle parle très peu, elle semble par contre avoir construit une digue dans son cœur, peut-être pour éviter de se noyer dans l'émotion. Je la ressens comme endiguée, inhibée, presque passive. Et quand sa digue intérieure se rompt sous le choc, en l'occurrence la réapparition brutale de son premier amour, alors elle chavire. Elle perd le contrôle et elle fonce dans la nuit. Et c'est au cours de la même nuit qu'elle va prendre deux décisions contraires, celle de s'enfuir avec son Baku retrouvé, puis au petit matin, celle de rejoindre Ryohei.
Alors comme Asako elle-même, c'est avec stupeur que le spectateur découvre que Baku et Ryohei se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Est-ce qu'il s'agit d'un film sur le thème du double?
On dirait bien, hein, on dirait bien. Hamaguchi a choisi de construire deux personnages d'amoureux en les opposant l'un à l'autre, tout en leur donnant une troublante ressemblance physique. Baku, c'est l'amoureux mystérieux, fantasque, imprévisible, très beau, avec ses mèches désordonnées, ses tenues décontractées. Et Ryohei, au contraire, c'est le jeune homme sérieux, tiré à quatre épingles, très investi dans son entreprise, très beau bien sûr lui aussi, puisque c'est le même acteur. Et épris d'Asako, il lui propose un jour de vivre en couple. Et alors, on voit Asako s'installer avec le double de l'amant disparu. Alors, ces deux personnages, Baku et Ryohei, sont parfaitement dessinés. Mais moi, je les trouve sans épaisseur, sans passé, sans histoire. Ils n'existent que par leur présent, ils n'existent que dans l'instant présent. Alors, c'est vrai que Ryohei va prendre un peu d'épaisseur dans le dernier quart du film. Là, en effet, il vit et il semblerait que Asako s'y mette enfin.
Alors, c'est une fin ouverte, hein, du moins apparemment. Tout semble possible. Alors, comment se révèlent les deux amants à cette époque-là? À ce moment-là.
Oui, à ce moment-là, Ryohei, lui, trahi par son amour, est furieux. Il ne veut plus lui parler. Et quand Asako vient lui demander pardon, il la rabroue. La dernière séquence les montre côte à côte, sur leur balcon, face à la rivière. Ils ne se regardent pas. Ryohei remarque l'eau est boueuse. Et Asako murmure, mais c'est beau. Alors on peut épiloguer longuement sur ces mots et se demander si ou se dire que Asako a peut-être mûri au cours de l'épreuve. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais il me semble que tu as quand même assez réservé sur ce film. Qu'en pensent les autres, Jean-Michel?
Oui, ben moi, je n'ai peut-être pas vu le même film. C'est le premier film de ce réalisateur que je vois. Je ne suis pas entré dans la magie du tout. Je n'ai pas vu, comme certains en ont parlé, ni Proust ni Romère. Et j'ai été totalement imperméable à ces figurines évanescentes et plates. Je suis d'accord avec toi.
Mais tu avais vu 7-16?
Non. Non, j'ai rien vu.
Ah, voilà.
Et je me suis prodigieusement ennuyé. Ça m'enchante pas, c'est un mystère très frelaté qui nourrirait plutôt une série télévisée sur papier glacé qu'un film porteur d'émotions. Voilà, et c'est un élève de Kiyoshi Kurosawa, mais l'élève n'arrive pas à se hisser à la hauteur du maître.
Oui, bon, je vois que c'est...
C'est pas l'enthousiasme.
C'est pas ça, on peut dire. Jacques, as-tu envie de défendre ce film?
Alors bon, ceux qui ont vu les deux disent que Senseuse est mieux. Hein. Moi, je n'ai pas vu Senseuse encore.
Il faut le voir vraiment, oui, bien sûr, vaut la peine. Hein, c'est très
bien. Je l'ai en DVD, donc je vais voir.
Il faut les voir.
Moi, j'ai bien aimé ce film, en fait. Je trouve qu'il est assez... Ah, il est très japonais, ça, c'est vrai, mais il est très fin, il est très délicat. Alors c'est vrai qu'on peut s'ennuyer un peu parce que c'est assez long, il ne se passe pas énormément de choses. Ce n'est pas complètement idiot de penser à Romer, mais un Romer japonais, évidemment, c'est un peu différent. Moi, je trouve que c'est un film qui est tout en retenue, il n'y a pas du tout d'effet des mélodramatiques, il n'y a pas de fantastique. Bon, simplement, ils se ressemblent, d'accord,
oui.
La ressemblance,
oui,
est forte,
oui.
Mais après tout, ça peut exister. Et je trouve que cette façon de présenter, enfin, c'est à la fois un double et c'est comme souvent deux doubles complètement opposés, comme tu l'as dit. L'un, c'est le mari solide, et puis l'autre, c'est l'amant dont on rêve, quoi, hein, dont on
le
rêve, mais finalement, quand il s'agit de revenir, on revient au mari.
Oui, c'est vrai.
Et puis, j'ai trouvé que c'était assez intelligemment filmé au niveau du décor de ces deux personnages, parce que le décor dans lequel on voit Baku au début. C'est un décor qui est tout en courbe, qui est végétal, qui est fluide. Il y a la rivière, etc. Alors que le décor dans lequel on voit Ryohei, c'est un décor de ville, c'est un décor tout en angle, tout en droite, c'est des escaliers, c'est des
métalliques souvent.
Non, j'ai trouvé qu'il y avait un travail assez intelligent sur l'accompagnement de la psychologie des personnages.
Il y a un travail en miroir très intéressant entre la première partie et la deuxième partie, où il y a des tas de choses qui se répondent, mais qui ne sont pas les mêmes.
Oui, le coup de foudre, entre guillemets, où on voit les pieds se rapprocher, oui. Mais ce n'est pas les mêmes pieds qui se rapprochent dans l'un et dans l'autre.
Et puis c'est filmé, ensuite la caméra remonte depuis les pieds jusqu'au visage, et tout, c'est intéressant.
C'est quand même un film assez intéressant sur le plan du cinéma, moi,
je trouve que c'est un film intéressant, sur lequel j'ai beaucoup de réserves. J'ai aimé cette histoire de femme qui se construit, parce que finalement, c'est ça l'histoire. C'est la construction d'une femme qui traverse son adolescence et qui débouche sur l'âge adulte. On peut résumer un peu le film de cette façon-là. Et ça m'a paru très, très intéressant.
Comme si elle avait vraiment mûri au cours de ce... On se pose la question, c'est pas si évident que ça. C'est peut-être... Je trouve que c'est très intellectuel tout ça, finalement.
C'est très intellectuel. Je pense que j'ai pas réussi à éprouver de l'empathie pour ce personnage, parce que ça fait très froid.
Oui, alors c'est vrai.
Très construit, très intellectuel.
Ça, c'est vrai. C'est pas un personnage dans lequel on rentre dedans.
Il n'y a pas de chair.
Parce qu'il y a pas mal de distance. Mais d'un autre côté, c'est assez souvent le cas de films japonais comme ça. Je trouve que c'est là qu'ils sont bons, quoi.
Oui, mais regarde, en Koreeda, dont on parlait la fois dernière, on est incarnés.
Oui, mais parce qu'on n'est pas tout à fait... Il y a des enfants, on est beaucoup plus dans l'émotion. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a plus de distance, on est moins dans l'émotion.
Mais tu vois, Jean-Michel parlait tout à l'heure...
Quand on vient dans l'émotion, on va tomber dans le mélo dans ce genre de film.
Jean-Michel parlait un petit peu de série télévisée. J'ai eu un peu cette impression-là. C'est ça qui m'a un peu gêné. Je ne sais pas quoi c'est dû. Je trouve que parfois, il y a des très belles images. C'est très, très, très travaillé très souvent. Mais ça m'a donné l'impression de froideur, un peu de roman photo. Particulièrement le Baku. Baku, j'ai trouvé que c'est un personnage complètement insignifiant. On se demande qu'est-ce qu'elle lui trouve.
Mais c'est une caricature.
Oui, mais je crois que là aussi, c'est voulu comme ça. C'est-à-dire que Baku, c'est un peu le rêve qui est effectivement caricatural. Baku, on le redécouvre comment? Sur un panneau publicitaire.
Il est devenu mannequin.
Donc c'est normal qu'il soit à la limite antipathique, froid, etc. Baku, c'est l'homme qu'on voit sur le panneau publicitaire. Oui, on peut en rêver, on ne peut pas en faire son mari.
La presse cinématographique a été unanimement favorable à ce film. J'attends la réaction du public.
Oui, mais ça, il y a beaucoup de films sur lesquels la presse est unanimement favorable et sur lesquels ensuite on a un peu plus de, de réserve.
On demande s'il y a vraiment un rapport entre la critique cinématographique et le public. J'arrive à en douter. Bon, mais c'est un autre sujet. Oui, enfin, moi, je te dis que... Puis j'ai bien aimé aussi ce côté symbolique des situations, particulier cette image du canard sauvage d'Ibsen. Je trouvais que c'était une idée très forte, ce panneau renversé, parce que d'une part c'est le symbole même du personnage de Zako renversé par l'espèce de tremblement de terre qu'elle traverse. Mais d'autre part, ensuite, c'est quand même une citation directe de la pièce d'Ibsen, parce que c'est la pièce d'Ibsen raconte une famille qui est détruite à partir du moment où elle découvre les cadavres qui sont enterrés dans le placard, et le cadavre tué à ce moment-là.
Oui, c'est intéressant.
Il y a une phrase typique que dit un des personnages, hein. Si vous retirez le mensonge de la vie des personnes ordinaires, on le retire en même temps le bonheur. Et je trouve que c'est une
belle phrase.
Mais là, on ne découvre aucun cadavre dans les placards. Il n'y a pas de placard. Tout est plat.
C'est pas des cadavres dans les placards, mais c'est tout un passé.
Le passé qui n'est pas connu par ses amis de Tokyo. Il y a aussi une opposition qui, pour nous, est sans doute difficilement perceptible entre Tokyo et Osaka. Le déménagement, les retours, c'est pas neutre pour des Japonais. Hein. Pour nous, un peu plus.
Je vois qu'on pourrait parler finalement très longuement de ce film, et on va quand même passer aux Invisibles. On va donc passer au dernier film de Louis-Julien Petit, Les Invisibles. Après Discount en 2015, Louis-Julien Petit revient à la comédie sociale maintenant, avec ses Invisibles qui se déroulent dans L'Envol, qui est un centre d'accueil de jour pour femmes dans le Nord. Le centre étant brutalement fermé par les autorités pour efficacité insuffisante, les travailleuses sociales qui le font tourner décident de le maintenir, contre tout, d'y installer clandestinement des dortoirs et de créer des ateliers tant thérapeutiques que de formation pour aider à s'en sortir les femmes sans domicile fixe qu'elles accueillent. Alors, dans un climat de film de désobéissance civile jubilatoire, Louis-Julien Petit s'appuie sur des comédiennes professionnelles pour jouer les cadres du centre. On trouve ainsi Audrey Lamy et Corinne Maziero dans le rôle d'assistante sociale convaincue et fonceuse, tandis que Déborah Lucumuena joue les bulldozers et que Nomi Lovski est parfaite en bourgeoise bénévole. Par contre, tous les SDF sont interprétés par des femmes à la rue. Alors, Jacques.
C'est un film qui m'a bien plu, et pourquoi ? Ce que j'ai bien aimé, c'est le mélange de réalisme et de légèreté, de tragique, parce qu'il faut le dire, il y en a, et d'optimisme. C'est à la fois un film engagé et une comédie genre un peu feel-good movie. Alors, côté réalisme, les problèmes dramatiques de ces femmes sans-abri ne sont absolument pas éludés. On voit des visages qui sont burinés par la rue, on voit les sacs qu'elles portent partout avec elles et qui contiennent à peu près tout ce qu'elles possèdent. On voit les destructions de campements au petit matin, qu'on lit parfois dans le journal. On comprend les difficultés à se présenter devant un recruteur et à être ponctuel à un rendez-vous. On est confronté aux interdits administratifs, aux liens compliqués avec la mairie. Le conseiller municipal, par exemple, explique aux responsables du centre qu'il n'y a pas assez de retour à l'emploi, ce qui est l'objectif, parce que vous les maternez trop. Ce qui fait un peu sourire quand on voit l'état des malheureuses que le centre héberge. Et alors, on comprend aussi les limites de la bienfaisance. Lorsqu'une DSDF se retrouve éjectée de son foyer, la bénévole au grand cœur, interprétée par Noémie Lvovsky, propose de l'héberger 2 ou 3 jours chez elle. Et ce à quoi la responsable, interprétée par Corinne Maciero, lui répond très lucide « Et au bout des 3 jours, tu fais quoi ?» Donc là, on n'est pas dans la guimauve, on est dans le dur de ces problèmes.
Et pourtant, le film n'est pas aussi sombre que tu sembles le dire.
Alors, il n'est pas noir du tout. Et pourquoi ? En fait, pour deux raisons. D'abord, le projet qu'elle lance, là, pour essayer de s'en sortir, les galvanise. Ce combat est un peu une utopie, mais il les transfigure. Et puis ensuite, parce que le film est émaillé de beaucoup de moments drôles qui font rire ou sourire. Et pour cela, le mélange d'actrices aguerries, tu les as nommées, et puis de non-professionnels, à mon sens, réussit vraiment très bien. Ces non-professionnels campent des personnages plus vrais que nature. Et pour moi, la vedette du film, c'est une ex-SDF de 70 ans qui joue le rôle d'une certaine Chantal, et qui joue en fait son rôle. Chantal sait tout faire, notamment réparer tous les appareils ménagers qu'on lui confie. Chantal est pleine d'énergie, prête à travailler dans n'importe quel emploi qu'on lui propose, mais elle a un défaut, sa franchise. Et donc, il faut qu'elle explique à tout le monde qu'elle a appris tout cela en prison, car elle a tué son mari qui était violent. Alors, la confidence, effectivement, qu'on entend plusieurs fois, fait évidemment fuir les employeurs. Et c'est sa vie, enfin, et vraiment, elle est extraordinaire dans ce rôle. Autre moment amusant, bon, la journée porte ouverte qu'elles organisent dans leur projet de réinsertion, ça ressemble un peu à Emmaüs, mais elles ont ajouté un stand de rencontre matrimoniale, sorte de speed dating du pauvre, et c'est le stand d'ailleurs qui aura le meilleur résultat. Donc tout ça crée un ton comique qui adoucit évidemment, enfin qui fait respirer. C'est donc ce mélange un peu de réalisme et de comédie bienveillante que je trouve réussi et qui devrait sans doute assurer un bon succès commercial à un film qui est quand même un film engagé.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse, Françoise ?
Pas complètement, non. Pas complètement, quand je crois que tu as dit, Jacques, tu as parlé d'une comédie bienveillante. Et moi, je n'ai pas vu la comédie, par contre la bienveillance, oui, mais j'ai été beaucoup plus sensible à ce qui est dramatique que côté comédie. Tu as parlé de feel good movie, je ne me suis pas du tout senti good. Mon feel good, à moi, il n'a pas du tout fonctionné pendant le film, j'étais même extrêmement mal à l'aise. En fait, j'ai été surtout frappée par le côté dramatique de ces gens-là.
Il y est, oui.
Et moi, il m'a plus marqué, si tu veux, que l'humour, qui est peut-être « on rit pour ne pas pleurer ». Moi, j'avais plus envie de pleurer que de rire. Je crois que la destruction, la séquence de la destruction du campement est quelque chose d'à peine supportable.
Oui.
Parce qu'on l'a vu à la télévision, c'est pas du cinéma. Et également le mobilier urbain qui est fait de telle façon, il y a des pointes partout, on peut pas se coucher,
absolument.
On peut pas. Et puis tous ces appels, on le sait aussi, aux 115, là, qui ne.
Tout ça est très réaliste. Hein.
C'est une réalité dramatique qui, moi, m'a finalement plus. Que j'ai plus ressenti que le côté humour, même si j'étais sensible. Bien sûr, le speed dating, j'ai été sensible, et au personnage de Chantal. Tu crois qu'elle a 70 ans ? Elle est extraordinaire, cette femme.
Elle a 70 ans, et elle a bien tué son mari. Hein.
Elle a bien tué son mari. Oui, alors, ça aussi, ça m'a frappé, c'est que ce sont des personnages qui connaissent la vie dans la rue. Et je me suis dit, mais ils passent sans cesse à côté de nous, comme des fantômes. On ne les voit pas, ils font partie du décor, mais c'est horrible.
Je crois que c'est la force de ce film, justement, de les rendre présents, de les rendre proches.
J'en suis sortie pas du tout feel good, mais pas du tout. Je mettais du temps à m'en remettre. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affectée en me disant, mais alors, voilà, on passe à côté, on ne les voit pas, ils font partie du décor. Et ce que j'ai aimé alors dans le film, c'est l'hommage qui est rendu aux travailleurs sociaux. Oh, ces femmes, ces hommes qui se donnent, mais qui se donnent pour essayer de sauver du naufrage des gens qui, pour la plupart, vont se noyer. Alors ça aussi, ça m'a énormément affectée. Je suis sortie bouleversée par le film. Hein.
C'est bien.
C'est un documentaire pour moi, c'est pas vraiment du cinéma.
Et toi Jean-Michel, bouleversé aussi ou...
Non, pas du tout. Que ce ne soit pas du cinéma, je suis bien d'accord. Que ce soit un documentaire, sûrement pas, parce que c'est traité comme une fiction poisseuse. Je voudrais dire que l'envol, ce n'est pas du tout ça. Quand on va chercher ce que c'est une association d'accompagnement de l'enfant malade vers des séjours de rupture. Donc bon, c'est un détail, mais enfin, j'ai été frappé par la confusion extrême de la première partie où on voit pas qui sont les SDF. Et qui sont les travailleuses sociales, ça se mélange allègrement, c'est pas du tout clair, je vois pas l'objectif du réalisateur, quelles sont ses intentions, quelle piste ouvre-t-il, c'est extrêmement confus, il y a des dialogues qui sont faciles, et j'irais même jusqu'à dire racoleurs, pour faire rire, à mon sens, de façon médiocre, et je suis pas du tout sensible à ce que certains appellent l'humour de ce film. Et une de nos consoeurs a dit que ce film était, tout en pensant du bien, loin d'être parfait d'un point de vue cinématographique. Et j'abonde dans son sens. J'ai été totalement indifférent à ce film, qui pour moi est une mauvaise action.
Mais il y en a une à chaque fois.
Oui, bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce film. Enfin, j'ai bien aimé ce film, mais bon, je vais pas énormément parler parce que le temps est quand même pas mal passé. Moi, j'ai bien apprécié ce mélange à la fois de dur et de comique pour faire passer, même si effectivement, par moments, c'est un peu risqué. Mais je trouve que ça marche bien.
Pardon, la mise en scène est brouillonne.
Oui, la mise en scène, ça, je suis d'accord.
Oui, complètement. Justement, ouais. elle est un petit peu comme on peut penser que peut l'être un tel sens. Non, moi, je trouve... C'est vrai que quelquefois, ça coince. Ça colle pas toujours très, très bien, ce mélange humour-réalisme. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quand même intéressant de faire ce genre de film. Parce que, désolé, Jean-Michel, un documentaire, personne ne verra. Et
c'est
quand même pas mal.
Non, bien, mais c'est une erreur de penser que personne ne le verra, mais c'est beaucoup plus.
Je pense que le film marche pas mal.
Le film marche
bien. Bien, on va faire une petite pause musicale et puis on va nous disputer dans le silence. Voilà. Nous allons, Fréquence protestante, nous allons reprendre avec Edmond un film d'Alexis Michalik. Celui-ci retrace la création de Cyrano de Bergerac et porte là à l'écran la pièce éponyme qu'il avait créée en 2016 avec un grand succès, 5 Molières. Nous sommes en 1897. Edmond Rostand, Thomas Olivérès, n'a pas encore 30 ans. Démoralisé par l'échec de sa pièce précédente, il n'a rien écrit depuis 2 ans. La rencontre avec le comédien Coquelin aîné, joué par Olivier Gourmet, lui-même à la recherche d'un nouveau spectacle à monter, le fait se lancer dans l'écriture d'une comédie héroïque et en vers, qui n'a que 3 semaines pour terminer, et dont il n'a pour l'instant que le titre, Cyrano de Bergerac. Commence alors une aventure au rythme effréné, où entre l'inquiétude jalouse de son épouse, les problèmes de cœur de son ami Léo, les caprices de Roxane, les exigences des producteurs et les doutes de son entourage, les bâtons ne manquent pas dans les roues de son projet. À moins que ces bâtons ne soient autant d'outils au service de sa création. Jean-Michel.
Oui, et bien comme chacun sait, ce sont effectivement les obstacles qui stimulent la création en général et la création artistique en particulier. C'est bien de cela qu'il s'agit ici. Cyrano de Bergerac demeure une des pièces de théâtre les plus populaires et les plus souvent jouées de la littérature française. Elle a inspiré de nombreuses adaptations. Mais l'originalité d'Edmond est de nous plonger dans le processus même de la création de sa pièce par Rostand. Faute de trouver un réalisateur pour adapter Edmond au cinéma, Michalik s'en est chargé lui-même.
Alors, la pièce et le film sont donc une sorte de making-of, je dirais, de l'écriture par Rostand de Cyrano de Bergerac.
Exactement. Comment, en 3 semaines, ce jeune auteur de 29 ans est-il arrivé à écrire ce chef-d'œuvre immortel ? Pour ce faire, le réalisateur, qui s'est amplement documenté, retrace d'abord en quelques images le contexte historique de la France de 1897 et tourne son film à Prague en déguisant les rues pour recréer celle du Paris de la fin du 19e. Passionné par la période de Louis XIII et fasciné par le personnage historique de Savinien de Cyrano de Bergerac, Rostand imagine d'en faire un personnage de théâtre lorsqu'il l'associe à un épisode de sa propre vie où, pour aider un ami à séduire une jeune fille, il l'aide à trouver les phrases susceptibles de produire l'effet voulu. C'est là le point de départ authentique d'une comédie héroïque en vers qu'il va proposer alors qu'il n'en a pas écrit une seule ligne au plus grand acteur de l'époque, Constant Coquelin. C'est cette construction hasardeuse, échevelée, improbable, mais irrésistible et triomphante que nous raconte le film, alors que Rostand, en proie aux exigences de ses producteurs corses, à la jalousie de sa femme, aux histoires de cœur de son meilleur ami, aux caprices des actrices et au manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, manque à chaque instant de sombrer dans le découragement. La mise en scène fait défiler les acteurs truculents de cette aventure du théâtre post-romantique et déroule à bride abattue les répétitions haletantes de chacun des 5 actes de ce Cyrano qui sera un triomphe. On aura au passage repéré Clémentine Célarier en Sarah Bernard, le réalisateur lui-même en Georges Feydeau, Dominique Pinon en savoureux régisseur de théâtre. Et il est difficile de bouder son plaisir devant cette comédie qui raconte avec un joyeux humour les coulisses de cette œuvre du patrimoine. Malgré certains effets un peu faciles mais sans nulle lourdeur, le film, marqué par son rythme soutenu et ses rebondissements, déploie des acteurs très bien distribués, emmenés par le convaincant duo amical que forment Thomas Olivérès et Olivier Gourmet. Voilà un spectacle grand public de qualité.
Qui veut réagir, Jacques ?
Je suis tout à fait d'accord sur la fin de ce qu'a dit Jean-Michel, c'est-à-dire que c'est un spectacle grand public de qualité. Il a en particulier une grande vertu pour un spectacle comique, c'est qu'il a du rythme. Il a du rythme, il n'y a pas de temps mort. C'est Rostand revisité par Feydeau. Feydeau est souvent cité. Les reconstitutions historiques sont bien, sont un peu stylisées à la manière des peintres de l'époque. Alors là où par contre je serais beaucoup moins d'accord avec Jean-Michel, c'est que ne parlons pas de réflexion sur la création littéraire. Il n'y a rien là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est motif à des gags qui sont très réussis. J'ai pris du plaisir à regarder ce film, mais pas du tout comme un film qui voudrait réfléchir sur quelque chose. Non, c'est un bon divertissement et je crois qu'il faut le juger comme tel.
On n'a pas besoin de réfléchir, voilà, effectivement.
Voilà, c'est quand même le processus de la création.
Une caricature du processus de création.
Ça s'est passé comme ça.
Tu ne peux pas le dire. Il y a eu effectivement quelques lettres qui ont été échangées. De là à dire, tu crois qu'il a...
Il y a un travail documentaire qui a été fait par le réalisateur. Ça s'est passé comme ça.
Là, je ne crois pas à ça d'un seul mot. Et ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs.
J'ai été le voir sur Internet.
Ceci dit, moi, je trouve, même si ça me simplifie, moi, je trouve quand même que cette façon d'associer un événement réel à un manque de création, je trouve que c'est quand même intéressant. Ça ne se voit pas si fréquemment.
Bien sûr. Et puis, encore une fois, s'il faut juger le résultat, résultat est amusant. C'est ça l'intérêt, quoi.
Sans prétention.
Absolument.
Sans prétention, oui. C'est un film, au demeurant, assez sympathique. Je ne peux pas dire qu'il ait remporté mon adhésion. Dès les premières minutes, je dis, zut, c'est un film en costume. Et d'un bout à l'autre, j'ai l'impression du film en costume où les gens, en effet, avaient un rôle qu'ils avaient appris par cœur et qui déclamaient. Honneur soit rendu, hommage soit rendu à Olivier Gourmet qui sauve le film par un jeu très juste et parfois même très émouvant. Je pense à la dernière scène de l'aveu dans le jardin du couvent, de l'aveu à Roxane, de l'aveu de son amour. Alors, cette scène-là est véritablement émouvante, mais elle est due à Edmond Rostand plus qu'au réalisateur du film.
C'est du théâtre filmé, justement.
Pardon,
on est vraiment dans le théâtre
filmé.
Oui,
mais c'est le seul moment où je me suis intéressé au film. Sinon, c'est un film, je ne sais pas à quoi c'est fait, ça emprunte au cinéma, au feuilleton, à la télévision, au boulevard.
Ça ne vaut pas l'original, bien sûr.
Les personnages corses, je ne sais pas si vous avez pensé, les personnages corses, ils viennent de bande dessinée.
C'est les enfants du paradis. Pour moi, c'est les enfants du paradis.
C'est des personnages de Feydeau.
C'est les deux producteurs des enfants du paradis.
Oui, c'est les personnages de Feydeau.
Ils sont en Corse, les deux producteurs.
Non, mais ils ont cette allure, ils ont cette.
C'est vraiment. Ils sont sortis. C'est amusant.
C'est Dupont et Dupont.
C'est Dupont et Dupont. Je ne suis pas vraiment amusé. Je me suis dit, ça peut passer, mais j'irai pas le revoir.
Je trouve qu'il a bien repris, au fond, l'humour de Feydeau. Ça marche comme une comédie de Feydeau, plus que comme Edmond.
Oui, c'est du boulevard.
Plus que comme Edmond Rostand.
C'est du boulevard.
Oui, mais il y a quand même les vers de Rostand.
Heureusement.
Oui, mais alors là, autant revoir l'original en entier.
Heureusement. Non, c'est autre chose.
J'ai trouvé le personnage de Rostand, d'Edmond, très intéressant. C'est un personnage qui est introverti, qui est timide, qui n'ose pas y aller, et qui est poussé en avant aussi bien par les événements qui le forcent s'il ne veut pas se casser la gueule, il faut à tout prix qu'il le fasse. Il est poussé par son inspiration. Je crois que c'était très dynamique, c'est beau, ça.
C'est sympathique comme film. Voilà.
C'est très sympathique.
C'est pas un grand film. Hein, c'est sympathique et c'est très bien joué.
Et c'est très bien joué, et ça marche très fort. Il y a déjà, la pièce a déjà eu 400 000 spectateurs, et puis le film, on est à 200 000, 200 000 entrées déjà.
Ah, mais c'est un film qui va certainement séduire beaucoup de monde.
Oui.
Mais bon, la subtilité fait parfois défaut. Hein.
Non, c'est pas le but.
Ça fonctionne. Voilà, c'est tout.
On est d'accord là-dessus. Voilà.
Bien, on va passer au film, aux critiques individuelles, au coup de cœur. On va commencer peut-être. Jacques, toi, tu voulais parler de dernier film d'Olivia Sayas, Double Vie.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Double Vie ? On pourrait dire un peu que Double Vie relève d'une démarche identique à celle du film Les Invisibles, parce qu'on parle d'un fait sociétal, et en même temps qu'il en est l'exact opposé. Il s'agit bien ici de faire réfléchir sur certains aspects de nos sociétés, mais alors nous sommes très loin des SDF, nous sommes dans les beaux quartiers parisiens, dans un microcosme intellectuel mêlant écrivains, éditeurs, acteurs, politiques, etc. Le débat porte sur l'impact des nouvelles technologies, sur la création artistique en général et sur la production littéraire en particulier. Alors, ces bobos maîtrisent évidemment parfaitement le langage, et donc le film est une succession de discussions brillantes autour d'une table ou d'un verre, dans un salon confortable ou dans un bistrot branché. Tout cela entrecoupé d'un peu de vaudeville. Et alors, évidemment, on pourrait être exaspéré par tout ce bavardage, mais les acteurs, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Guillaume Canet pour les principaux, sont excellents. La mise en scène est très fluide et la réflexion n'est pas dénuée d'intérêt. En particulier, la réflexion principale tourne jusqu'où peut aller un écrivain dans l'usage qu'il fait dans ses livres de sa vie privée. Alors, de tout temps, les écrivains ont parlé d'eux-mêmes, mais le décryptage des personnages réels qui étaient cachés dans leurs œuvres ne sortait en général pas d'un petit cercle d'initiés. Le problème, c'est qu'à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, ce n'est plus le cas. Les noms sont maintenant livrés en pâture à la foule. Alors face à cette situation, l'auteur doit-il s'auto-limiter, refuser de puiser son inspiration dans des épisodes trop intimes de sa vie, ou doit-il continuer comme avant, au risque d'être attaqué pour diffamation ou lynché sur les réseaux sociaux? Voilà le genre de réflexion auquel se livre le film. Aussi bien d'ailleurs un peu sur le monde politique et le cinéma, et aussi sur les séries télévisuelles. Donc Olivier Assayas continue à creuser le sillon de la création artistique. Bon, c'est un film léger, il n'atteint pas du tout la puissance de Sils Maria, mais on y prend un certain plaisir. En tout cas, j'y ai pris un certain plaisir.
Oui, moi j'ai vu ce film, moi j'ai dit que j'étais un peu agacé par ce monde germano-pratin, oui. Qui ne cesse de se focaliser sur ses petits problèmes. On a l'impression d'un groupe de poissons rouges qui tournent dans un bocal et qui n'en sort jamais.
C'est bon, un peu vrai. Voilà,
enfin, ceci dit, j'ai quand même trouvé très intéressant le regard porté sur la situation du livre,
oui,
actuellement.
Voilà.
C'est finalement un regard dont on n'en passe pas suffisamment, cette espèce de disparition du livre sous l'effet du numérique et d'Internet, et j'ai trouvé très intéressant. Et aussi, cette idée qu'actuellement, quand on est écrivain, il faut avoir un blog, et que les gens lisent davantage les blogs que les livres.
Tout à fait. Il y a une grande discussion, est-ce que les gens regardent le blog à cause du livre, ou lisent le livre à cause du blog?
Je me suis dit, beaucoup de discussions, tu disais, sont très intéressantes, mais à la longue, c'est un peu fastidieux.
Effectivement, un peu conversation brillante. Mais c'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage, non, le sujet est intéressant, quoi.
Tout à fait, absolument. Françoise, toi, tu avais choisi un film de Sébastien Marnier.
L'heure de la sortie. L'heure de la sortie, ça, c'est un film, c'est un objet singulier, qui nous retient, malgré ce qu'on peut considérer comme des maladresses, mais qui sont tout autant des choix du réalisateur. Et les choix qui nous interrogent, on se dit, mais pourquoi ce mélange des genres, cette fable bizarre, dérangeante et attachante? C'est un film atypique qui est à la fois cauchemardesque, sociologique et écologique. On y rencontre des collégiens de 3e, certes un peu à part, on les appelle pour faire cours des surdoués. Si bien que les autres ne les aiment pas beaucoup, ce qui est très banal aujourd'hui, à bas les élites. Et on fait la connaissance d'un jeune prof suppléant, Pierre Hoffmann, très sympathique, mais qu'on voit malmené par ses élèves modèles, jamais insultant, jamais grossier, oh non, froidement rejetant et poliment insolent. Vous allez rester longtemps ? Il faut dire qu'ils viennent de vivre l'horreur, leur professeur de français s'est jeté par la fenêtre en plein cours. Épouvante dans la classe. Alors le jeune prof, joué par Laurent Lafitte, 40 ans, répond-il à une élève. Prend en charge ce groupe de 12 surdoués d'un prestigieux collège et il se heurte immédiatement à une résistance passive et vite inquiétante que toute sa bonne volonté ne parviendra pas à assouplir. Ses élèves, pas comme les autres, se retrouvent après les cours dans une carrière abandonnée où ils se livrent à des rituels adolescents assez inquiétants, dangereux, voire sadiques. Pierre découvre qu'ils ont une curieuse collection de DVD. Ce sont des vidéos de décharges gigantesques, d'égouts répugnants, de marées noires, d'oiseaux mazoutés et de violences abominables dans nos abattoirs. Pierre décide de mener une enquête et quand il essaie de se faire expliquer ses étranges activités, il comprend alors que ces jeunes se préparent, tenez-vous bien, à une prochaine fin du monde, plus cyniquement à l'heure de la sortie. Et alors que les adultes les considèrent comme une élite prometteuse, eux se voient comme une génération sacrifiée. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a que vous qu'ils ne voyez pas. Assène froidement une élève. Alors, la catastrophe écologique n'est-elle qu'un épouvantail relégué pour beaucoup dans un futur incertain, voir la dernière séquence que je vous dirai pas.
Voilà, ben on va pas parler non plus. Oui, enfin, je suis d'accord. Enfin, j'ai vu ce film. Moi, je trouve que c'est un film très atypique. C'est ça qui est intéressant. Il a mélange des genres, réaliste, fantastique, écologique. C'est même un film de genre avec une espèce d'atmosphère paranoïaque qui tout au long
étrange,
qui,
ouais,
est
ouais.
étrange, qui ah, est maintenue ouais. tout au long du film. On sent d'ailleurs beaucoup de critiques l'ont dit. On savait beaucoup penser au village des. Enfin, les jeunes font beaucoup penser au village des damnés de Vafrila, qui est un des classiques du fantastique.
Pas à ce point-là quand même.
Et le suspense est très bien entretenu tout au long des films, cesse de grandir. Bon, maintenant, je trouve qu'il y a quand même deux défauts dans ce film. Quand on fait un film qui mélange le réalisme et le fantastique, c'est difficile, parce qu'il y a des critères qui sont incompatibles à ces deux genres. Et on tombe vite dans la vraisemblance, et c'est un petit peu le défaut de ce film. Et puis, le second défaut que je trouve, c'est quand il y a un projet qui est mené tout qu'on annonce tout au long du film et qu'on essaie d'approfondir, de trouver, etc. Donc on attend une résolution satisfaisante. Et ce côté-là, enfin, je ne peux pas dire bien sûr qu'il y a cette résolution, mais j'ai quand même été assez déçu. Jean-Michel, toi, tu sais tout à fait différent. Tu veux nous parler du grand documentariste Denis Gerbrandt.
Voilà, c'est un auteur qui, depuis une quarantaine d'années, a fourni une douzaine de films qui appartiennent tous au registre du cinéma direct, baptisé au début des années 60 Cinéma Vérité. Et de fait, sur le carton qui ouvre le film Mallet en son exil, on peut lire Mallet d'Oukara, filmé par Denis Gerbrandt. Celui-ci s'en explique volontiers, un homme filme un autre homme. Pendant 5 ans, presque chaque semaine, il rencontrera un paysan malien exilé à Montreuil qui travaille comme agent de nettoyage à Paris et envoie chaque mois à sa famille au village une grande partie de son maigre salaire. Mallet, travailleur précaire vivant dans un foyer, est à la fois pétri de la culture de ses nobles ancêtres et de leur mythe fondateur et très averti cependant du mode de pensée occidental. Et Gerbrandt, après le préalable de 2 mois d'intense échange sans caméra, a filmé sa parole et son univers intérieur qui se confrontent au sien. C'est ainsi qu'après une longue phase de familiarisation réciproque, ont surgi, comme il le dit, les questions qui fâchent, l'esclavage, la polygamie, l'excision, réalité coutumière que Mallet expose et défend comme partie intégrante de son socle culturel, tandis que le réalisateur les conteste avec la même franchise au nom de son propre système de valeurs. Ce qui fascine dans le film, c'est la façon dont s'installe la relation entre le filmé et le filmeur, sans qu'aucun des deux ne convainque l'autre, mais dans un respect mutuel qui permet au spectateur de vivre le chemin qui mène à l'autre, sans que soient esquivés les désaccords. Ce que révèle aussi de façon éblouissante le film, c'est la force et la beauté de la parole partagée qui fait advenir une relation égalitaire.
Merci, Jamil. Oui, je crois qu'il faut souligner que Denis Gerbrandt est quand même un documentariste, grand documentariste, insuffisamment connu, et qu'il faut vraiment aller voir ce film, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, mais que je vais aller voir.
Oui.
Mais je vous ai dit quelques films de Gerbrandt. Il y a eu La vie est immense et pleine de dangers, il y a eu Le voyage à la mer, il y a eu Après un voyage dans le Rwanda, La République Marseille, On a grévé, enfin, toute une succession de titres qui caractérisent ce grand documentariste. Encore une fois, on ne voit pas suffisamment. Bien, je voudrais passer maintenant terminer en parlant de L'homme fidèle, qui est déjà sorti il y a quelques semaines, mais qui, à mon sens, vaut le coup qu'on s'y intéresse. C'est le second long métrage de Louis Garrel. Il en a écrit le scénario avec Jean-Claude Carrière, dont on reconnaît la patte, ne serait-ce que dans la stupéfiante efficacité d'une narration menée tambour battant. Alors, merci à ces réalisateurs, ils sont rares, qui vous bouclent un film en 77 minutes, ciselé, alors que tant d'autres mettront 2h10 à vous en dire beaucoup moins. Car ici, tout se passe très vite. Et ceci dès le prologue, qui voit Marianne, Laetitia Casta, lumineuse et candidement manipulatrice, virer son amant Abel de sa vie et de son appartement, au motif qu'elle se trouve enceinte de Paul, un ami commun. À peine dessiné, ce premier triangle amoureux s'efface, remplacé 10 ans plus tard à la mort de Paul par un autre tripode, constitué par Marianne, toujours là, Abel revenu, et Ève, la petite sœur de Paul. Depuis son adolescence, Ève, Lily Rose Depp au charme juvénile et conquérant, nourrit pour Abel un amour qu'elle a pieusement entretenu dans le congélateur de ses fantasmes, jusqu'à ce maintenant où, équipée de sa beauté de jeune femme et bien faite, elle entend enfin faire voir ses désirs et remplacer Marianne auprès d'Abel. Au centre de gravité de ce triangle, Joseph, joué par Joseph Angel, le fils de Marianne et de Paul, en observe les 3 sommets avec une acuité glacée qui n'est pas de son âge. Il est le personnage central du film, à la fois impénétrable, touchant, manipulateur, inquiétant. Il ne supporte pas l'idée de voir Abel remplacer son père auprès de Marianne et lui glisse, argument à l'appui, « Maman a tué papa ». Vrai ou faux ? En tout cas, cette accusation permet d'introduire une nuance sourde de menace dans la brillante comédie cocasso-romantique minutieusement agencée par Louis Garrel, et surtout, en ramenant au premier plan le fantôme de Paul, le père de Joseph, de nourrir le thème de base de ce film, celui de la filiation. Thème qui se dévoile dans sa totalité lors de la dernière scène, on le retrouve, les quatre personnages vivants de cette histoire, réunis devant la tombe du père, Abel serrant la main de Joseph. Tout est bien qui finit bien ? À voir.
Je vais en rajouter dans la louange. Je me suis régalée pendant la projection du film. Il est subtil, intelligent, drôle, grave et poétique. Tout ça à la fois. J'ai adoré le choix des prénoms. Marianne, déjà. Marianne, on est tout de suite chez Musset, on est chez Marivaux. C'est les jeux de l'amour et du hasard. Et puis Ève, on sait bien d'où elle vient. C'est la candeur et la pureté. En tout cas, quand elle apparaît à l'écran, mais elle est rattrapée par son personnage, par son ancêtre du Jardin d'Éden, parce qu'elle va pécher, elle va tromper Abel. Ève serait-elle fourbe ? Grande question philosophique. Quant à Abel, lui, bien sûr, c'est un homme fidèle. Et alors que ce sont les femmes qui s'avèrent infidèles et pour le moins manipulatrices, c'est comme ça que disent les hommes. Alors le film demeure mystérieux d'un bout à l'autre, on ne saura jamais qui est vraiment le père du jeune Joseph. Moi je pense que c'est Abel, je pense que c'est pas Joseph. Abel se désole parce qu'il
ne comprend pas Paul.
Que c'est pas Paul, oui, que je pense que c'est Abel, moi. Et Abel se désole de ne pas réussir, de ne pas parvenir à comprendre les femmes. Et il ne voit pas comment les femmes fonctionnent. J'adore ça, il est merveilleux dans ce rôle un peu naïf. Il les aime, mais il ne parvient pas à être aimé. Et je crois que c'est malentendu entre hommes et femmes, c'est un sujet vieux comme le monde, mais c'est jubilatoire quand c'est Louis Garrel qui y met sa finesse, son humour et son intelligence. Oui. Bravo.
En tout cas, bon, je crois que Louis Garrel apparaît une noble dynastie de cinéastes, je crois qu'il entre bien dans la hiérarchie.
Oui, enfin, son père est quand même un grand cinéaste. Lui, c'est plutôt un acteur.
Oui, mais là, il se lance dans la réalisation et...
Tu as vu le film, Jean-Michel ? Tu as vu ? Tu as vu ?
J'avais pas envie de le voir.
Tu pourrais être heureusement...
Surpris.
Son premier film ne m'avait pas plu.
Ah oui ? Ouais, des fois, on change d'un film à l'autre. Non, c'est vraiment un film qui...
Je crois, cher ami, qu'il est venu le temps de nous quitter sur Fréquence Protestante. Mais avant de le faire, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, réagissez, dites ce que vous pensez de cette émission en vous adressant à radio@fréquenceprotestante.com. Je répète, radio@fréquenceprotestante.com. Eh bien, merci à Françoise, à Jean-Michel et à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté et qui nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 26 février de 13h15 à 14h.